RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS. Le RKS Foot Time Show.
Bonsoir, il est 19h, vous êtes sur RKS, vous écoutez l'émission le RKS Foot Time Show, l'émission qui vous informe sur l'actualité du foot professionnel sous toutes ses coutures. Aujourd'hui, un programme chargé nous attend. Alors effectivement, vous devez vous poser des questions parce que c'est pas Melvin qui fait la présentation aujourd'hui. Melvin, on l'excuse, il est malade et contraint de rester chez lui. On a une grosse pensée pour lui. Mais je suis quand même à côté de Pierre, mon ami, mon acolyte. Comment ça, mon Pierrot ?
Oui, fidèle au poste, toujours là. Bah écoute, ça va. Donc Melvin qui officiellement est malade. Ouais. Officieusement, sa femme a écouté les deux dernières émissions. Mais tout va bien. Non, écoute, on va essayer de compenser son absence, même si
ça va être dur. Ça va être dur. Franchement, hein, c'est comme se passer d'Mbappé pour le PSG. Hein, voilà, tu vois, quand il est pas là, on le sent. Hein.
Il lance les hostilités.
Surtout que lui, c'est lui le chef d'orchestre.
Hein,
voilà, de cette émission. Hein. Bon, j'essaierai d'être à la hauteur
de
l'événement, voilà, et de compenser au mieux son absence. Alors aujourd'hui, mon Pierrot, on a quand même un sacré programme, parce qu'il s'est quand même passé des choses ce week-end. On va parler un petit peu du GF 38 qui s'est imposé.
Ouais. Hein, 2-1, c'est ça.
Voilà, 2-1 à Chambly. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle après la belle victoire contre Toulouse.
C'est où Chambly?
C'est une bonne question.
Non, mais je me suis posé la question, mais
bon, je te laisse chercher pendant que je dis le reste du sommaire. Voilà, on va parler également aussi forcément de la Ligue 1 avec ce classique, comme on l'appelle, le PSG contre l'OM. À voir si vous pensez comme nous qu'il a été plaisant ou pas à regarder. On va parler aussi de la Première Ligue qui fait son grand retour. Ça y est, la première journée de Première Ligue a eu lieu ce week-end. On va débriefer un petit peu quelques rencontres et on fera également un petit peu mercato en fin d'émission. Malheureusement, vu qu'on est que deux, on va pas faire le quiz. Ça serait dommage parce que sinon, ça voudrait dire que tu connais toutes les réponses, Pierre. Même si je pense pouvoir te battre, même.
Oh, comme il est. Voilà,
c'était Pierre qui avait en charge de faire le quiz. Bah, tu le feras la prochaine fois.
La semaine prochaine.
Hein, voilà.
Ça vous laisse le temps de réviser.
Voilà, exactement. Exactement. Hein, Melvin, si tu nous écoutes, tu révises bien parce que la semaine prochaine, je te pine. Allez, sans transition, on va passer au premier sujet du jour avec cette belle victoire du GF 38, 2-1 contre Chambly, une deuxième victoire, on va dire, plutôt aboutie parce que je trouve que dans le jeu, c'est vraiment intéressant en tout cas ce qu'ils sont en train de faire. Puis gagner des matchs à l'extérieur, c'était un petit peu le point faible un petit peu de ce GF 38 les saisons précédentes. Là, ils enchaînent sur effectivement après la belle victoire contre Toulouse, donc c'est bien, ça fait deux victoires en trois matchs.
Ouais.
c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, mon Pierrot?
Bah, il se classe dans la première partie, c'est bien de confirmer, même pour le moral. On sait que le début est souvent très important quand t'as des envies, des ambitions éventuellement d'aller chercher les premières places, parce que c'est le but de Grenoble. Alors est-ce qu'ils ont l'ambition de monter dès cette année, ou en tout cas de le faire sur les 2-3 prochaines années? C'était ça l'objectif. Je pense que s'ils ont l'occasion de le faire dès cette année, ils se priveront pas. Bon, même si c'est pas l'objectif numéro 1, mais c'est bien. Après, on voit qu'il s'est quand même assez relevé cette Ligue 2 sur ce départ, parce que je crois que là ils sont 7e, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
7e après 3 journées de victoire, donc on voit que les gros de devant sont au rendez-vous, hormis Toulouse qui est dans les abysses de la Ligue 2, pour pas dire dans les abysses du football. Pour la petite anecdote, tiens, Chambly, Kevin, Chambly, c'est dans l'Oise.
Ah oui, France. C'est ça, c'est FC Chambly Oise en plus.
Exactement, 10 174 habitants, dont la moitié travaille pour le football club. Non mais écoute, ce sera assez bien d'avoir aussi des équipes comme ça, ça bouleverse un peu le décor du football professionnel. Mais oui, belle victoire, méritée sur l'ensemble parce qu'ils ont quand même dominé. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on voit que l'équipe de Grenoble, je ne sais pas ce que tu en penses, Kevin, parce que tu es plus au fait que moi, mais elle témoigne d'une force de caractère, parce que ça fait quand même deux matchs qu'ils gagnent en prenant des buts. Donc c'est bien, on sent un collectif qui est en train de s'affiner, de s'affûter.
Oui.
Et je pense que c'est de bon augure pour la suite. Je la sens bien, cette équipe de
Grenoble. Non, puis en plus, ils ont eu complètement la maîtrise du jeu, hein, parce on est sur presque du 70-30 au niveau de la possession de balle pour une rencontre à l'extérieur. Je trouve ça quand même prometteur. Et en plus, derrière, beaucoup plus de tirs, beaucoup de passes, 535 passes, rends compte quand même. Quand on s'appelle pas le Barça, c'est quand même un peu surprenant. Donc non, je trouve que c'est positif. En tout cas, les signaux sont au vert pour moi pour cette saison du GF38. Bien évidemment que la saison sera longue. On va déjà suivre aussi avec attention la prochaine rencontre qui ne s'annonce pas facile contre, contre l'AC Ajaccio. Hein, il va falloir être, répondre présent, même si l'AC Ajaccio, c'est pour l'instant 2 matchs, 0 victoire.
Hein. Ouais, donc, bon, ils ont un peu plus d'expérience, on va dire, que Chambly. Après, bon, il y a de bons signaux aussi. Il y a Nani qui marque pour son
oui,
deuxième match
de
suite.
C'est vrai.
C'est bien parce que c'est important dans un collectif comme ça d'avoir déjà des joueurs qui sont au rendez-vous. Et c'est vrai que je pense que ce match à Ajaccio peut être un match piège. Ils vont passer du nord de la France en plus à l'île de Beauté. Donc,
oui, c'est vrai.
Ils vont voyager. Bon, après, il faut continuer, maintenir cette dynamique. Encore une fois, les 10 premiers matchs de chaque saison sont extrêmement importants.
C'est sûr.
Et c'est souvent ça qui fait qu'après, tu vas jouer les premières places ou tu vas jouer après le maintien. Donc là, ils sont sur une bonne dynamique. Le prochain match sera très important, c'est certain.
Non, mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. On va parler un petit peu de ce classement, parce que moi, il y a quand même des choses qui me choquent un peu dans ce classement. Tu me dis ce que t'en penses, mon Pierrot. On a quand même Toulouse, dernier, Ajaccio, avant-dernier, Nancy 15e, Guingamp 16e, Auxerre 14e, Amiens 12e qui vient aussi de descendre. Hein. C'est quand même inquiétant, je trouve. Toi, tu disais effectivement que certains gros, effectivement, c'est vrai que Caen est plutôt au rendez-vous, mais Caen, Sochaux, Valenciennes, ça va. Paris FC qui fait pour l'instant le début de saison parfait, mais derrière, quelques gros ont du mal à réenclencher le...
Après, c'est clair, mais je pense que ça témoigne aussi d'une chose, c'est que plus ça va aller, plus à l'image un peu de ce qui a été fait en Première Ligue, parce qu'on a peut-être 10 ans de retard par rapport au budget de la Première Ligue, mais tu vois, la Première Ligue, dans son dynamisme, dans sa montée en puissance, a emmené la Deuxième Ligue anglaise, et j'ai l'impression que quand tu regardes la Ligue 2, là où il y a 5, 6, 7, 8 ans en arrière, tu avais des équipes comme Evian, comme cette année aussi un peu Chambly, tu me diras, mais tu vois, cette année, tu regardes, la Ligue 2, elle a de la gueule. Quand tu vois Sochaux, quand tu vois Caen qui revient,
oui, il y a quelques belles équipes quand même.
Quand tu vois Amiens, Auxerre, Guingamp, Ajaccio, Toulouse, c'est des clubs qui connaissent les ligues.
Même le Havre, hein,
le Havre aussi, effectivement. Valenciennes, qu'on pourrait aussi citer. Tu vois, c'est des équipes qui reviennent comme ça un petit peu au premier plan et qui font que je pense que la Ligue 2 va être de plus en plus relevée.
Homogène aussi.
Exactement.
Ouais. C'est déjà, je trouve, un championnat qui était quand même assez homogène. Bon, l'année dernière, c'est vrai que.
Et beaucoup plus disputé. Hein.
C'était, les deux premières places étaient quand même difficilement atteignables. Mais je trouve que cette année, on est peut-être en train d'aller voir une Ligue 2 plus homogène et peut-être la chance pour le GF38 d'accéder, pourquoi pas, au barrage, sans parler forcément d'une montée directe. En tout cas, il ne faut rien s'interdire. On va fermer cette page Ligue 2, mon Pierrot.
Ouais.
On va tout de suite s'intéresser à la grande sœur. À la Ligue 1. Alors, avant de parler de ce match, le classique qu'on a eu hier, hein, qui s'est terminé par une victoire, bien évidemment, de l'OM, 1-0, face au PSG, on va quand même parler des autres rencontres, parce qu'il s'en est passé des choses aussi ce week-end en Ligue 1. Alors, déjà, vendredi, Bordeaux-Lyon, pourtant une belle affiche. C'était peut-être prémisse aussi de but. Et puis, on a eu un 0-0 tout tristoun, tout moche. Est-ce que tu as vu ce match, Pierre, ou est-ce que tu as vu le résumé? Qu'est-ce que tu en as pensé?
Ouais, je l'ai vu par extrait. Il y a eu des joueurs lyonnais qui étaient quand même plus au niveau que les joueurs bordelais. Aouar a fait un bon match, notamment là, son action de grande classe qui touche le poteau. Je pense que ça va encore activer un petit peu plus la cellule de mercato de certains clubs. Ça a été un match où il manquait des buts. Il manquait des buts.
Pas beaucoup de réussite pour Lyon, parce qu'il y a quand même eu 20 tirs.
Mais tu vois, un manque d'efficacité, parce que quand tu regardes à l'image de leur match, 20 tirs, 3 cadrés.
Ouais.
Voilà. Et Bordeaux, c'est 5-0. Donc lui, bon, pour le coup, Bordeaux, c'est le néant. Donc c'est vrai que sur ce match, ça manquait de réalisme, ça manquait à l'image un petit peu de ce qu'a pu faire Aouar. La finition, elle a pêché sur ce match-là. Il y a eu des jolies choses, mais dans le dernier geste, c'était pas au niveau.
Ouais, on parlera aussi bien sûr de Lyon au mercato, parce que ça bouge beaucoup, surtout côté départ. On attend encore des arrivées. Je pense aussi que ça peut avoir une petite incidence quand même sur le mercato, parce que je pense que notamment des joueurs comme Depay, comme Aouar, peut-être qu'ils savent pas encore bien se positionner encore dans cette équipe, parce qu'ils savent pas trop s'ils vont être gardés ou si finalement ils vont être vendus. Donc on verra ce que ça va donner.
Pour le moment, si ce qu'on peut dire sur Bordeaux, c'est la patte Gasset qui pour le moment se fait un peu attendre. Il est arrivé tardivement au mercato,
il arrive dans un champ de ruines.
Mais tu vois, après il y a le résultat et puis il y a le contenu. Sur le contenu, le match Quand tu regardes le résumé de ce match-là, tu as 80% qui tournent autour de Lyon et le reste, c'est Bordeaux. Donc c'est vrai qu'il a encore du mal à... Il tente certaines petites choses, il continue à faire tourner un petit peu le collectif autour d'Adli. Il essaye de mettre en avant les jeunes, il essaye de faire un mélange avec des joueurs d'expérience comme Briand.
Ouais.
Il essaye de mettre en avant son numéro 9, là, Wang, devant sa triplette derrière de Kalou, de Préville et Houdin. Il essaye des petites choses. On sait que Gasset aime bien avoir un numéro 9, une pointe sur laquelle s'appuyer. Il avait bricolé au premier match, là il essaye. Bon, après Lyon, c'est pas non plus un cadeau. Pas un cadeau.
Il
pourra certainement affiner sa stratégie sur des équipes un petit peu plus accessibles, en tout cas à l'heure actuelle pour Bordeaux, même si ça me peine de le dire. Mais pas grand chose à retenir de ce match.
Je suis plutôt d'accord. On va passer aux rencontres de samedi. Il y a eu deux rencontres. Montpellier qui a gagné à domicile contre Nice. Alors ça a un petit peu été la petite sensation de samedi, parce que on sentait Nice quand même pas trop mal embarqué dans sa Ligue 1. Et puis là, finalement, déjà défaite contre Monaco en match amical le 4 septembre pendant la trêve internationale. Et puis là, cette défaite à l'extérieur contre Montpellier. Bon, on sait que Montpellier, c'est pas une équipe très facile à jouer. C'est une équipe qui joue très très bien derrière. Mais là, une petite déception quand même.
Là, c'est le cas de le dire. Il joue très très bien derrière. Il y a un défenseur qui marque deux buts sur ce match. Donc oui, c'est le cas de le dire. Après, moi, je suis pas étonné, parce que c'est ce qu'on a débriefé sur les premières journées de Ligue 1. Avec Melvin, j'étais pas d'accord avec vous quand vous disiez que Nice avait bien joué, que Dolberg commençait à bien prendre ses marques et déjà à scorer. Moi, j'ai senti un petit Nice sur les deux premières journées, qui gagne, mais ça se joue à vraiment pas grand chose. Un Nice qui frappe très peu au but, qui est extrêmement réaliste, et on le sait très bien que les équipes qui frappent peu au but mais qui sont réalistes, ça peut fonctionner pendant un temps quand il y a un cercle vertueux, comme ça a pu l'être certaines saisons quand le FC Nantes gagnait 9 fois de suite avec des victoires 1-0. Tu sais que c'est des équipes fragiles, parce que dès lors où à l'inverse elles vont inverser et passer de ce cercle vertueux à ce cercle vicieux, tu sais très bien que la descente elle peut être rapide. Et je pense que Nice, ce petit coup d'arrêt avec ce match pour moi où la défaite est logique, Montpellier frappe deux fois plus au but, Montpellier était entreprenant, bah après Montpellier était à domicile, mais dans ce petit derby de la côte méditerranéenne, je pense que ça va faire du bien à Nice, et j'espère que Patrick Vieira tirera les enseignements qui, à mon sens, a déjà dû tirer sur ces deux premières rencontres malgré les victoires.
Ouais, non, mais ça c'est sûr. Puis moi, j'apprécie un petit peu le jeu à la Montpellier, parce que c'est une équipe qui déjà est très bien en place. Par contre, c'est une équipe qui est joueuse. Ouais. Tu vois, quand je vois qu'ils ont que 37% de possession de balle, mais que derrière, ça leur permet de tirer 20 fois au but, de cadrer 13 fois. C'est intéressant quand même.
C'est aussi la patte d'Erzakarian. Moi, j'ai vu évoluer au FC Nantes. C'est un des entraîneurs que j'ai adoré par ce qu'il dégage et par sa vision du jeu. Beaucoup sous-côté, à mon sens. Et je suis content que ce personnage reste en Ligue 1. Ça fait du bien. C'est un entraîneur que j'aime beaucoup et je trouve que ça lui va bien. Il a ce côté un peu du sud, donc je trouve que le club de Montpellier lui va à ravir. Et à chaque année, il fait des belles choses. Alors, il n'arrive pas forcément à attraper les places européennes, mais c'est un club, Montpellier, qui arrive à s'installer durablement maintenant dans notre top 10. Et un club où, voilà, quand tu joues Montpellier, tu sais que ça peut être un match piège.
Oui, mais en tout cas, pour moi, t'as raison de le souligner. Et puis, pour reparler un petit peu de Patrick Vieira, moi, je pense qu'il faut qu'il se mette un peu en question, parce que moi, je pensais qu'on en avait fini avec les entraîneurs qui voulaient absolument copier Guardiola, avoir forcément cette possession du ballon qui devient forcément, quand tu ne t'appelles pas Guardiola, une possession qui devient vite stérile. En tout cas, c'est très facile de tomber dans cette caricature de possession de balle où rien ne se passe, parce que c'est vrai, Montpellier, il ne s'est rien passé. Nice, pardon, il s'est rien passé, avec pourtant une possession de balle qui était largement en leur faveur, mais avec très très peu de tirs. Donc bon, il faut leur laisser
une forme aussi... de suffisance.
En tout cas, tu as raison de souligner que Patrick Vieira doit vite faire le point. On bascule sur l'autre rencontre de Ligue 1 qui a eu lieu samedi, avec une belle victoire de Saint-Etienne à domicile contre Strasbourg. Une victoire 2-0, des buts de Bouanga sur pénalty et de Camara. Saint-Etienne, finalement, qui réussit très très bien ce début de saison.
Ouais. On en avait parlé, c'est rigolo, hein. Tu te rappelles, à la sortie de la finale en Coupe de la Ligue. C'est en Coupe de la Ligue ou Coupe de France?
C'était Coupe de la Ligue, il me semble.
C'était Coupe de la Ligue. Sortie de Coupe de la Ligue, on se dit Saint-Etienne peut vraiment avoir des regrets. Et à la fin de Buchy, quand il prend la parole.
C'était Coupe de France.
Coupe de France. Quand il finit la rencontre de Debuchy et qu'il arrive au micro, il dit « Écoutez, c'est de bon augure. Le groupe, on sent qu'il vit bien, ça va mieux. Les mots qu'on a eus au cours de cette saison sont soignés, sont derrière nous. Et aujourd'hui, on n'a qu'une seule hâte, c'est rattaquer cette saison de Ligue 1 pour montrer qu'on vaut mieux qu'un bas de tableau et qu'une place de relégable. » Et je pense que Saint-Etienne nous le prouve de la meilleure des manières sur ce lancement. Alors, ce n'est pas non plus le beau Saint-Etienne. Le Chaudron ne peut pas se targuer d'avoir un jeu.
Mais quand tu vois la saison qu'ils font la saison dernière.
Mais voilà, ça gagne. Ça gagne. Il y a un esprit, c'est solidaire, c'est soudé, ça ne prend pas de but. Et voilà, ça commence déjà à prendre ses marques dans les premières places du tableau. Donc c'est bien, c'est de bon augure. C'est dans la continuité de l'analyse qu'on avait pu faire avant la reprise de cette.
C'est vrai, ils sont dans la continuité de ce qu'ils ont fait sur le match contre le PSG. Ils avaient dit, en plus, moi j'ai eu plusieurs potes Stéphano aussi qui m'avaient dit que la prépa avait été bonne, que ça bossait bien. Finalement, Puel reste fidèle à lui-même parce que c'est un entraîneur qui fait bien bosser ses équipes. C'est un entraîneur surtout qui arrive à bosser avec pas beaucoup. Un peu comme Darzakarian par exemple aussi à Montpellier, on en parlait précédemment. C'est pour lui, Saint-Etienne, pour l'instant, tel qu'en tout cas il est en train de construire son effectif, il est en train de construire l'effectif parfait pour ce qu'il veut faire, parce que c'est beaucoup de jeunes joueurs, et lui je pense que c'est un entraîneur qui est bien dans la formation, qui aime bien prendre les jeunes.
Aouchiche qui prend sa place maintenant dans le 11 de départ.
Non mais c'est sûr, non mais pour moi c'est positif. Ils sont effectivement 4e, 2 victoires, 4 buts marqués, 0 encaissé, 6 points. Pour l'instant, on peut difficilement demander plus de cette équipe et c'est pour l'instant très très bien. Ils vont jouer leur prochain match, je suis en train de regarder, là ils jouent leur prochain match contre Marseille.
Ça va être un très beau match.
Ça va être un très beau match. Ça va être un très beau match. Et puis en plus, Marseille, en plus, qui va se présenter un petit peu amoindri parce que, on va en reparler, mais il y a eu beaucoup de cartons. Donc,
ça sera d'autant plus intéressant que ça sera leur troisième match, les deux équipes, parce qu'elles n'ont joué que deux matchs jusqu'à maintenant. Et elles restent sur deux victoires. Donc, ça va être un moment un peu clé sur ce match-là. Voilà, la confirmation et l'autre, la première défaite de la saison.
En tout cas. Là, ils vont enchaîner pas mal de gros matchs, les Stéphanois, parce qu'ils vont à Marseille, ils vont à Nantes, ils reçoivent Rennes, ils vont à Lens et ils reçoivent Nice.
Ouais, ça va être sympa.
Là, le programme jusqu'au 17 octobre pour les Stéphanois, il va être très chargé. Et je pense que dans le RKS Foot Time Show, on a tout intérêt à suivre avec attention le parcours de cette équipe parce que ça va être une vraie. Ça va donner, je pense, une vraie tendance sur leur saison. S'ils arrivent à ressortir de ces 4 matchs avec, potentiellement peut-être 8-10 points, ça peut vraiment être intéressant.
Ouais, c'est clair, ça peut lancer vraiment leur saison.
Je suis d'accord. On bascule maintenant sur les rencontres du dimanche. Alors, il y a eu beaucoup plus de rencontres, beaucoup de cartons, parce que même en dehors
énormément de cartons rouges.
Hein. Ouais, même en dehors du match du classique qu'on a eu contre le PSG-Marseille, il y a quand même Angers et Reims qui finissent avec 2 cartons rouges, Dijon un carton rouge, Lens un carton rouge. Bon, on ne va pas passer non plus 3 ans sur toutes ces rencontres-là. On va essayer de prendre les équipes un petit peu qui jouent le haut du panier. Lille qui gagne 1-0 contre Metz. Rencontre un petit peu décevante quand même des Lillois, je trouve, qui ont, c'est vrai, aussi beaucoup tenté. Mais encore pas mal d'inefficacité. Ils s'en remettent à un but d'Araujo qui rentre. Mais bon, c'est quand même que Metz en face, ils jouent à domicile. On attend quand même plus de cette équipe lilloise.
Non, c'est certain, surtout avec les moyens qu'ils ont mis. Ils ont eu la chance de. Je trouve qu'ils ont bien géré le dernier mercato parce qu'ils ne se sont pas fait piller non plus.
Oui.
Alors attention, le mercato n'est pas terminé, mais ils l'ont géré bien mieux. Et je pense que pour le coup, Galtier peut s'en satisfaire. Maintenant, il va falloir qu'ils mettent tout ça à profit. Lille était en Ligue des Champions l'année dernière, même s'ils ont fait que figurer. Ils ont une expérience, maintenant ils ont un statut à inscrire dans la durée. Et des équipes comme Metz qui sont très faibles, très très faibles en ce début de saison. C'est le genre de match sur lesquels ils doivent scorer, ils doivent se mettre en confiance. Et pour le coup, là ils sont allés service minimum.
Ouais, non, c'est sûr. Tout à fait. On va passer sur quelques rencontres. Moi, j'ai envie quand même de souligner la belle victoire lensoise qui confirme quand même après cette victoire contre le PSG où, bon, c'est vrai que le PSG, on avait dit, s'est présenté quand même amoindri. C'était le premier match de la saison. Ils ont quand même pas mal souffert aussi, les Lensois, dans cette rencontre contre le PSG. Là,
Puis en plus, on leur offre le but. Le but leur est offert. Bon, bref. on va pas mettre en avant entre guillemets ce match-là, même si voilà, ça restait une victoire.
Ouais.
Là, en tout cas, c'est vrai que bon, déjà, c'est une affiche que j'aime bien, Lorient-Lens, parce que Lorient, moi qui suis breton d'origine, Lorient, c'est des vrais Bretons. Tu sens l'amour du pays, l'amour de la Bretagne, la ferveur qu'il y a derrière tout ça. Ouais. Et Lens, c'est pareil. Donc, c'est toujours des matchs au couteau avec ces équipes-là, parce que il y a un vrai amour du maillot derrière tout ça.
Ouais.
Et je trouve que le tableau du score reflète bien tout ça, reflète bien cette physionomie du match avec 3-2, avec un carton rouge, mais avec de l'envie. Et pour moi, Lens confirme. Depuis que Lens a gagné ses matchs barrages et se retrouve dans cette Ligue 1, je trouve qu'elle apporte une saveur particulière. Voilà, c'est Lens, c'est énormément d'envie. C'était une des plus grosses affluences.
C'est une équipe qui a sa place en Ligue 1,
oui.
Enfin, pour moi.
Oui, parce que bon, tu vois bien l'année dernière, oui, hein, oui. C'était une des plus grosses affluences Ligue 1, Ligue 2 confondues. Je crois que c'était la 6e ou 7e plus grosse affluence des deux premières divisions. Ça respire le football, ça pue le football, quoi. Et
moi, j'ai un gros respect pour ces entre guillemets petites équipes qui jouent. On va dire un maintien quand même, jusqu'à preuve du contraire, qui quand même ont envie, jouent au football, ça joue quand même un football assez offensif. Contre le PSG, ils ont quand même joué crânement leur chance, hein. Ils auraient pu être un peu apeurés. Moi, je trouve que c'est positif. On a besoin, dans un championnat, pour qu'il soit le plus agréable à regarder, le plus compétitif possible, on a besoin que toutes les équipes, y compris celles qui jouent le maintien, jouent le jeu tous les week-ends. Et le jeu de j'essaye de marquer quand même, et j'essaye d'exister dans ce championnat.
Ah bah c'est sûr que je préfère un Lens qu'un Metz. Hein. Sur ce début de saison, il n'y a pas photo. Hein. Mmh. Ça, c'est certain.
Ça, c'est sûr. Rennes, qui gagne quand même 4-2 contre Nîmes. Nîmes, je trouve que c'est quand même un début de championnat assez décevant, celui des Nîmois. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas rencontré des équipes très faciles. Bon, après, c'est Brest, ils ont gagné 4-0 contre Brest, d'accord. Mais après, derrière, ça perd 2-1 à Nantes. Et là, c'est quand même à domicile. On les attendait quand même un peu plus joueurs. Et puis au final, 4-2. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match?
Bah, en fait, Nîmes, je peux pas suivre toutes les équipes à chaque fois. Hein. Je peux pas suivre
compliqué.
Tous les championnats. Donc, c'est vrai que je suis obligé de jeter un peu mon dévolu sur 2-3 équipes par période. Mm. Et Nîmes a fait partie en fait des équipes que j'ai décidé de suivre sur ce début d'année.
Mm. Et en fait, on a de la chance.
On a de la chance. T'as posé la bonne question, Kevin. Non, mais alors Nîmes, oui, là ils ont bien ramassé sur ce match-là. Il y a pas à dire. Mais quand tu regardes les statistiques de Nîmes et que tu regardes le jeu de Nîmes, moi j'ai eu le plaisir de les regarder un peu évoluer face à Nantes. Franchement, Nîmes avait dominé sur le match, et contre Nantes, Nîmes méritait de gagner.
Oui,
Nîmes a quand même marqué. Contre Brest, ça a été à sens unique. Nîmes a marqué 4 buts. Et quand tu regardes, certes, ils perdent contre Rennes.
Oui, mais par contre, c'est vrai qu'ils sont entreprenants quand même.
Mais Rennes, qui a eu un réalisme froid, enfin,
oui,
Rennes
oui.
a tiré 6 fois, a marqué 4 buts.
Oui.
C'est pas, et quand tu regardes au niveau comptable, sur le match, Nîmes marque 2 buts sur 9 tirs cadrés, quand Rennes en marque 4 sur 6. Mais on va me dire, c'est ça le football. C'est le réalisme. Oui, mais ce que je mets en avant, c'est que Nîmes développe du jeu. Nîmes frappe en moyenne entre 15 et 20 fois par match. La moitié des frappes en général sont cadrés, donc c'est une équipe qui joue, et c'est une équipe qui ne m'ennuie pas. On parlait tout à l'heure par exemple de Bordeaux ou de Metz. Si je dois mettre aujourd'hui une équipe en avant malgré la défaite, Nîmes joue au football. Au football, et sincèrement, tu sais, ça me fait penser un peu au Strasbourg de ces dernières années. Strasbourg qui joue pas les premières places, mais quand je dis les premières places, c'est les 4 premières, mais qui se classe dans le top 10 avec du jeu. À chaque fois que j'ai regardé Strasbourg ces dernières années, c'est plaisant. Il y a des buts, il y a de l'envie, et Nîmes cette année a un effectif offensif, ça joue au football, ça met les ballons devant, ça se découvre un petit peu et un peu trop sur ce match-là contre Rennes où ils ont été punis. Mais en tout cas, il y a du jeu, il y a du football, et c'est de bonne augure pour cette année.
Bon, en tout cas, Rennes qui prend la tête de ce championnat avec 7 points, suivi de près par justement Monaco qui a gagné 2-1 à domicile contre Nantes. Finalement, Monaco, le changement de coach, ça a l'air d'avoir du bon.
Ouais, Monaco, bon, de toute façon, ça pouvait, il fallait qu'il y ait un renouveau, là, sortir un peu de ce cycle. Fallait sortir de ce cycle d'entraîneur, et il fallait insuffler une nouvelle dynamique. L'avantage, c'est qu'il a été annoncé relativement tôt, je trouve, donc il a pu travailler avec son effectif, pouvoir commencer à façonner le groupe tel qu'il voulait le faire. Monaco, il fallait de toute façon faire un grand ménage. Il y a eu pas mal de joueurs qui sont partis sous forme de prêt ou de manière définitive. Mais là, Kovac, il est en train de faire quelque chose de bien. Après, faut souligner qu'il a quand même un bel effectif. Hein. Martins, Ben Yedder, il a quand même des bons joueurs sous la main. Après, il faut réussir à créer une âme, à cette équipe et c'est pas facile. Je vais pas remettre une disquette dans
un stade,
et dans un club comme celui-ci. Tu parlais de l'amour du maillot à Monaco, je pense que c'est difficile de l'avoir.
Oui.
Nantes a pas démérité, mais après Nantes est tombé sur meilleur. Monaco fait un bon début. On avait cité de toute façon un certain nombre d'équipes sur la pré-saison qui selon nous allaient bien débuter. On avait annoncé notamment Rennes, Monaco, Lille, Saint-Etienne, Marseille. On avait parlé de Nice, on avait parlé de Lyon et de Paris. Voilà, ça complétait la boucle. Hormis Lyon et Paris, pour les autres équipes, pour le moment le contrat est rempli. On a eu le nez fin parce que ça fonctionne, ça marche.
C'est vrai.
Et ça a train de prendre. Donc la Ligue 1 est de bon augure, ça part bien, ça part sur de bons rails. Le Paris Saint-Germain a perdu déjà deux fois, donc tu sais qu'à un moment, il va falloir qu'ils reviennent, donc il va y avoir des matchs au couteau. Et moi, j'aime bien, voilà. Avoir Paris derrière à moins 6 points, à moins 7 points par rapport à Rennes et Monaco, même avec un match en retard, eh ben, tu vois, on va peut-être avoir une Ligue 1 un petit peu plus accrochée avec un Paris qui sera pas sacré 4 mois avant. Et ça sera bien aussi pour Paris.
Non, voilà. Je demande que ça, que cette Ligue 1 enfin décolle. Pour que ce soit agréable pour tout le monde.
Mais même pour Paris Saint-Germain, on parlait de l'Olympique lyonnais, les féminines. Les féminines, elles ont un championnat où elles ont deux matchs à jouer réellement à l'aller et au retour, contre Paris notamment. Et puis le reste du temps, elles n'ont rien à faire. Mais ce n'est pas parce qu'elles ont un match de Ligue des Champions qu'elles vont changer tout le 11. Le Paris Saint-Germain, à chaque fois, quand ils abordent les phases finales de Ligue des Champions, ils arrivent à Nîmes, ils arrivent à Brest, ils n'ont pas Neymar dans le groupe, pas Mbappé, et ils font tourner les joueurs, ils arrivent et ils sont en manque de forme. Au moins, là, si Paris doit faire jouer ses gros joueurs à chaque fois, on va créer des automatismes, on va créer du rythme. Et un peu à l'instar de Liverpool, on part avec deux défaites, c'est historique. Mais je pense que ça peut donner encore une autre saveur à notre championnat de Ligue 1.
On va en parler. Moi, je voulais juste minimiser un petit peu le bon début de ce Monaco. On est content pour eux, bien évidemment, qu'il faut quand même gagner ses premiers matchs. Et c'est pas toujours évident, la preuve avec le PSG. Bon, quand je regarde quand même les trois adversaires, Reims, Metz, Nantes. Bon, Nantes, on va dire moyen plus. Mais derrière...
Reims, c'était au mois... c'était déjà... Non, Reims, c'est pas comptabilisé. Les premiers matchs, c'était Metz... Mais
si, Ligue 1, premier... Non, Reims, première journée, 2-2. Si, le 23 août.
D'accord.
Donc voilà, 2-2, Monaco-Reims. Ils ont gagné après 1-0 à Metz, mais bon, Metz. Et derrière, une victoire contenante. On va attendre notamment les prochaines rencontres, notamment ce petit choc qu'on va avoir à la quatrième journée, ce Rennes-Monaco. Qui peut être pas mal entre les deux équipes qui pour l'instant ont réussi le mieux leur
ça va être pas mal ça entre le Rennes-Monaco et le Saint-Etienne-Marseille, ça fait déjà des matchs.
Et il y a Lille-PSG il me semble aussi.
Oui, c'est ça.
Voilà, donc ça va être pas mal cette quatrième journée, hein. Hâte d'être clair. À la semaine prochaine,
ouais. avec le retour de Melvin,
mais c'est parfait, tu vois comme les choses se goupillent, mon Pierrot.
Ouais, c'est ça.
Bon Pierre, je sais ça va pas être un moment facile pour toi, mais on va parler quand même de ce classique entre le PSG et le Marseille. Alors, déjà, moi, ce nom classique, je trouve ça un peu moche, mais bon.
Ouais, c'est
je trouve ça nul. Mais
surtout
bon.
Qu'il a perdu de son sens ces dernières années.
Ouais.
En fait.
Attends, moi je veux te mettre ton jingle quand même, mon Pierrot.
Putain,
hein, on met le jingle. Allez, on met jingle.
Allez.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui,
et le match.
Vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
Des rencontres, hier soir, il y en a eu.
Peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que...
Bon, on va pas l'écouter tout en entier parce qu'il fait 40 secondes, quand même, le truc. Bon, mon Pierrot, je veux quand même ton avis sur ce PSG. Je vais quand même lancer un petit peu ce petit mini-débat sur le classique avec le petit retour de Daniel Riolo à la sortie du match sur RMC. Il dit que ce que le PSG a proposé, donc Tuchel a proposé tactiquement, c'était de la bouillie et que pour lui, il est enfin temps pour le PSG de changer d'entraîneur. Est-ce que tu es d'accord avec ce mini compte-rendu ?
Écoute, en tout cas, ça détonne de l'analyse tactique de Thomas Tuchel qui, à la fin de la rencontre, dit que le match a été exceptionnel, que ça a été une saveur somptueuse pour lui, qui l'a vécu aussi en tant que supporter, qu'arriver avec un Paris Saint-Germain qui, dès la deuxième journée, est preuve d'une telle aisance tactique, technique, physique, qu'il a été, voilà, que l'effectif a été sublime, s'il met en parenthèse les dernières minutes du match, et que, comme il a un peu impu avec Villas-Boas, il allait le voir, il lui a dit « t'as joué au loto », donc après ils se sont un peu embrouillés, je ne sais pas si tu as vu ça,
oui,
ils se sont traités de merde.
Ouais.
Voilà, ça résume bien en tout cas l'état d'esprit. Donc je pense qu'il y a une forme de déni. Alors le match, je l'ai vu. Je pense que ni Tuchel ni Riolo ne sont dans le vrai.
D'accord.
Match du Paris Saint-Germain, pour l'avoir vu de la première à la dernière minute.
C'était long en plus, parce que c'est 80, ouais, c'était 100 minutes. C'était 100 minutes de match, parce qu'on a eu 9 minutes de temps additionnel.
C'est ça, Mégane commençait un peu à râler à la fin.
On embrasse Mégane.
Exactement. Non, après, ce qui est sûr, c'est que les gens voulaient du classico, ils ont eu du classico. Mais le classico, tel que ça a pu être résumé ces dernières années. Je me rappelle d'un jour où j'avais regardé un reportage de Canal+. Canal+, qui, pour les je ne sais combienième année de derby, ou de classico comme ils l'appellent, faisait un remake des plus grands classicos. Et dans les plus grands classicos, tu avais toujours des tibias péronés, tu avais toujours des os qui sortent, des cartons
rouges
à poison.
C'est vrai qu'ils sont nostalgiques de l'époque des années 90, où ça se découpait sec.
Non mais c'est exactement ça. Et aujourd'hui, en fait, les gens ont eu du classico. Voilà. Les gens sont contents. Moi, je suis triste. Je suis triste de ce qui s'est passé hier parce que, excuse-moi, je préfère un classico à 2-2 où Cavani met une barre transversale rentrante à la dernière minute sur un coup franc improbable, où là, il y a des buts, où là, il y a du jeu, où là, il y a de l'enthousiasme. Je préfère voir des matchs où Monaco gagne 4-3 contre le Paris Saint-Germain, où tu as du beau jeu et où là, ça met vraiment en avant la qualité que peut avoir la Ligue 1. Moi, sur ce match-là, pour moi, c'est une terne publicité. Là, hier, j'avais l'impression de voir jouer le Galatasaray. J'avais l'impression d'être en Turquie,
oui, c'est vrai.
Avec des fumigènes de partout. Alors, il n'y avait pas de supporters. Heureusement, j'ai envie de te dire, heureusement que sur ce match-là, il n'y a pas 5000 supporters marseillais qui sont parqués. Ouais. Parce que je peux te dire que derrière, il y a 15 000 personnes à l'hôpital. Ça part en couille. Il y a des interpellations. Donc, Dieu merci. Et parce qu'il n'y aurait même pu avoir des coups de couteau, je pense que si on autorisait les couteaux sur le terrain, je pense que hier, ça aurait pu finir comme ça aussi. Si cette analyse là-dessus, pour moi, c'est triste pour le football. D'ailleurs, il y aura des sanctions qui vont tomber par rapport au nombre de matchs de suspension. Je pense que de tout ça, ce sera encore une fois le Paris Saint-Germain qui sera le grand perdant. Ils l'ont été d'un point de vue comptable, d'un point de vue sportif, et ils le seront aussi pour les prochains matchs, parce que les petites baffes que met Neymar et le comportement qu'il a eu, je pense qu'il va prendre au minimum 4-5 matchs d'expulsion.
Tu penses autant?
Oh, je pense. Ouais. Je pense qu'ils vont vouloir marquer le coup. De l'autre côté, Benedetto, le numéro 9 de l'Olympique de Marseille, je pense qu'ils pourront s'en passer. À ma vie, en ce moment, il est bon. Sur cette dernière saison, il est bon. Donc, ça peut être préjudiciable. Mais ils pourront, dans la rotation, faire rentrer quelqu'un. Par contre, le Paris Saint-Germain, Neymar, qui ne sera pas là sur les prochains matchs, en ayant déjà commencé par deux défaites, pour moi, ça peut être inquiétant. Après, sur le match en lui-même, le Paris Saint-Germain, Mandanda fait des super arrêts.
C'est vrai.
Le Paris Saint-Germain n'a pas démérité. Le Paris Saint-Germain a dominé. L'Olympique de Marseille a tiré deux fois, notamment sur la frappe du but qui est sur un coup franc au deuxième poteau. Thauvin joue très très bien. Rico, il doit bien se positionner quelque part. Il décide de serrer son poteau, mais pas suffisamment. Ça passe dans un mouchoir de poche. Donc, sur le match, en fait, quand Thomas Tuchel il va voir son homologue et qu'il lui dit « t'as joué au loto », je peux le comprendre aussi parce que l'Olympique de Marseille fait un mini hold-up. Sur la physionomie du match, il fait un mini hold-up. Mais comment on peut en vouloir aujourd'hui à Villas-Boas? Et c'est là où, même en étant supporter parisien, je dis félicitations, désolé aux Marseillais. Ça va peut-être faire saigner une ou deux oreilles pour nos amis et nos auditeurs qui supportent Paris. Mais à un moment, tu te mets à la place de Villas-Boas, tu prends 4 buts au dernier match en une mi-temps parce que tu veux jouer crânement ta chance et tu regardes le Paris Saint-Germain dans les yeux. Par orgueil, tu prends 4 buts en une mi-temps. Sur ce match-là, ils ont appris de leurs erreurs. L'erreur, elle est humaine. Mais comme on dit, la vraie bêtise, c'est de ne pas la reproduire. Donc là, le Paris Saint-Germain s'est présenté face à Marseille. Et Marseille a regardé d'un point de vue physique, d'un point de vue athlétique. Ils ont regardé le Paris Saint-Germain dans les yeux, tout en ayant le respect de son adversaire. Et sur ce match, c'est ce qui a transpiré. Marseille a joué, oui, derrière. Marseille avait une politique, une stratégie de jouer en contre-attaque. Ils n'ont pas réussi à le mettre en place. Ils ont joué crânement leur chance. Le but, il est beau, hein, y a rien à dire. Thauvin, il se positionne très très bien. Le plat du pied, à la vitesse à laquelle ça va, le mettre là où il l'a mis, c'est pas si facile que ça. Donc, je trouve que sur ce match-là, et Villas-Boas a raison, ils se sont présentés, ils ont joué avec leurs armes. tout en sachant que le Paris Saint-Germain était largement au-dessus, ce qui s'est vu, ce qui s'est ressenti sur la physionomie et sur les statistiques de ce match. Et pour moi, c'est peut-être une victoire qui restera pas dans les annales, mais d'un point de vue comptable, Marseille a 6 points en 2 matchs et le Paris Saint-Germain en a 0. Et quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille et que réellement tu veux jouer les premières places et que tu veux essayer d'arriver à titiller ton rival, pour moi, Marseille, ils ont tout
pas,
gagné ce
soir.
Je suis pas d'accord,
Pierre, parce que pour moi, bon, déjà comme tu l'as dit, c'est une triste publicité pour la Ligue 1. À tous les niveaux, parce que t'as pas eu de but, t'as eu des fautes tout le long du match, ça a été
13 cartons jaunes,
ça a été scandaleux.
C'est déjà un miracle que Payet rentre sur ses deux pieds au vestiaire.
Non, mais c'est vrai. Mais moi, je suis effaré de voir la réaction aussi de tout le peuple marseillais sur cette victoire. Alors oui, c'est bien de gagner contre ton rival historique. Bon, après moi, personnellement, ce classique, de toute façon, il m'a jamais fait rêver parce que c'est une rivalité créée toute pièce par Canal+. C'est même pas...
c'est une rivalité d'orgueil, en fait.
C'est une rivalité d'orgueil entre deux coqs des années 90. Voilà, bref.
Oui, ça n'a rien à voir, je te rejoins, ça n'a rien à voir avec la rivalité que tu peux avoir entre le Milan et la Juventus, qui est notamment née, ou l'Inter, qui peut arriver notamment. La rivalité, elle naît de quoi? Elle naît d'une finale gagnée au pénalty en Ligue des Champions. Tu vois, c'est cette rivalité qui a été créée aussi aujourd'hui entre la France et l'Italie, mais c'est une rivalité sportive.
Oui,
là où je te rejoins, c'est que la rivalité entre le Paris Saint-Germain et Marseille, c'est une réalité marketing.
Oui, mais c'est même pas ça. À la limite, moi, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, moi, quand j'ai regardé le match hier, je me suis dit, j'ai l'impression de voir le Real contre l'Atlético à l'époque où Mourinho y est. C'est-à-dire à l'époque où Mourinho, c'était chaque derby de Madrid, c'était Ramos qui mettait des savates à tout va, avec Pépé derrière le boucher. Il y avait au moins.
Il manquait plus que Cahuzac.
Il y avait au moins 10 cartons pareil par match. Ça jouait mal. C'était une horreur à voir. Enfin, je suis désolé. On est quand même supporters de foot. On a envie, quand tu aimes le foot, tu as envie de voir quand même un minimum de jeu. Tu peux, à la limite, te dire, bon, allez, on a joué un petit peu. Marseille a joué un peu comme l'Atlético Madrid. Ils ont joué à la Diego Simeone, quoi.
Ouais,
si, ils ont joué à la Diego Simeone, à la vas-y que je te pousse et à la vas-y que je te mets un tacle à la carotide. Mais pour moi, c'est pas du foot. C'est pas ça qui va donner envie à des gens de regarder plus de Ligue 1 et avoir des droits télé qui se revalorisent chaque année. C'est pas avec des matchs comme ça. Et on n'a pas le droit. Je trouve quand on aime vraiment le foot, on n'a pas le droit de cautionner ça et de dire ah bah c'est bien, au moins il y a eu de l'engagement. Mais non, tu peux avoir de l'engagement, mais il faut quand même un minimum respecter son adversaire, le battre à la régulière. Ce que Marseille aurait pu faire sans, si on enlève l'aspect où ils ont voulu à tout prix casser les jambes, mais le PSG d'ailleurs aussi a joué ce jeu-là au bout d'un moment parce que bah forcément ça la violence entraîne la violence, mais franchement je trouve pas que ce soit une bonne publicité pour la Ligue 1. Après derrière on en revient toujours à la même chose avec ce PSG-là, c'est qu'à chaque fois que physiquement ils sont bousculés, à chaque fois ils ont du mal. Ils ont du mal et il faut qu'ils franchissent aussi un cap à un moment. Il faut que cette équipe, elle commence tout juste avec le match contre l'Atalanta à apprendre un petit peu à être dos au mur et à pouvoir réagir. Maintenant, il faut qu'elle apprenne aussi à souffrir et à prendre des coups sans les rendre, mais en restant bien concentré dans le match. Parce que si tu apprends à rester dans ton match, même si c'est difficile, même si c'est un classico, en plus, pour moi, vu qu'il n'y a pas beaucoup de supporters, tu peux encore une fois arriver à rester dans ton match parce qu'avec les supporters qui après derrière crient à chaque fois machin nanana, c'est compliqué parce que tu es aussi pris après par la ferveur du stade. Mais là pour moi ils auraient tout eu à gagner à rester dans leur match, à se dire de toute façon il y a bien un moment où il y a un Marseillais qui va se faire sortir parce qu'ils vont mettre plusieurs coups, etc. Et le jeu, plus tu restes dans ton match, plus tu prends justement la chance de voir un Marseille réduit à 10, à 9, et toi t'as plus de chances de pouvoir marquer le but. Mais pour moi, plus tu vas t'énerver, moins tu vas pouvoir gagner ce genre de match là et c'est là-dessus que le PSG doit progresser.
Ouais, je partage partiellement ton analyse, Kevin. Mais oui, je suis d'accord. Le fait que déjà le stade n'était pas plein, ils auraient dû se contenir davantage. Après l'analyse, sincèrement, sur ce match-là, même seul, en fait, je pourrais faire un monologue pendant 45 minutes, donc ce n'est pas le but. Mais il y a quand même 2-3 points qui ressortent et 2-3 choses aussi qui permettent de comprendre pour nos auditeurs qui n'auraient pas pu voir, ou par faute de capacité ou d'envie, voir le match. Le match, il a la physionomie qu'il a. Il se termine comme il se termine pour plusieurs raisons. Déjà, il suffit de regarder Dimitri Payet. T'analyses aujourd'hui les déplacements sur ce match de Dimitri Payet. Dimitri Payet, il a passé 90% du match dans son côté du terrain. Dimitri Payet, sur ce match-là, il fait 4 récupérations dans sa propre surface de réparation. Dimitri Payet, il a joué la moitié du match latéral gauche. Quand il se prend un tacle de Di Maria par derrière, il est à son poteau de corner. Donc Payet, forcément, vu qu'il a joué latéral gauche, en soutien d'Amavi, forcément, offensivement parlant, il manque quelque chose, hein, quand Payet il renvoie de son poteau de corner la balle au milieu de terrain, bah, il peut pas être au milieu de terrain pour la récupérer. Rongier, pareil, il a fait 2 ou 3 récupérations in extremis en revenant et il est à 4 mètres de Mandanda. Donc forcément, quand t'as 11 Marseillais dans la surface, forcément, tu sais que tu vas avoir un match où tu ne vas pas avoir beaucoup de spectacles. Et encore une fois, j'ai envie de leur reprocher, mais d'un point de vue purement comptable, quand tu vois que Marseille a donné un beau visage au dernier match, mais qu'ils s'en prennent 4 en une mi-temps, et là, ils ont donné un visage, mais dégueulasse, mais ils repartent avec 1-0, et on va me dire quoi ? C'est quoi le but du football ? C'est de gagner, même par la plus petite des marges. Même si pour moi, ce n'est pas ma vision du football en tant qu'amoureux du sport.
Ils peuvent gagner aussi en jouant bien, je suis désolé.
Mais sur ce match-là, ils n'ont pas pris cette stratégie-là. Et le score leur donne raison. Et c'est aussi
après, tu peux jouer à l'Atlético moche, ok. Tu peux, mais par contre, ça ne sert à rien de découper tes adversaires les uns après les autres.
Mais regarde.
Enfin, c'est ça aussi, je trouve que ça rajoute...
Kevin. Ça fait depuis que les Qataris ont racheté le Paris Saint-Germain, depuis cette période-là, Marseille essaye de rivaliser. Marseille, sur chaque match, essaye de regarder le Paris Saint-Germain dans les yeux. Il se découvre et il joue de manière offensive comme s'il jouait contre Reims ou contre Dijon. Et le résultat, il est qu'à chaque fois, ils prennent une valise.
J'ai pas de problème avec le fait qu'ils jouent défensif. Ils peuvent jouer défensif. Tu peux même aussi bouger un peu ton adversaire. Mais hier, pour moi, c'était non seulement c'était moche. Bah, c'est pas très grave que ce soit moche. Mais en plus, quand c'est moche et que t'ajoutes à ça la brutalité et la violence, je suis désolé, j'avais qu'une envie, c'était d'arrêter. Quoi.
Le gros problème qu'il y a eu sur ce match, donc il y a le fait que les 11 Marseillais jouaient dans leur surface. Et à la rigueur, quand t'as une équipe qui est regroupée, c'est pas bien grave du moment où t'as un numéro 9. Hier, le Paris Saint-Germain, pas de Choupo-Moting, pas de Cavani, pas d'Icardi, et Mbappé, je le cite pas parce que pour moi, c'est pas un numéro 9. Donc, quand t'as pas de point d'appui, quand t'as personne dans la surface pour les longs ballons, parce que hier, les Parisiens, ils ont centré. Hein. D'ailleurs, Florenzi a fait un très bon match. Très, très bon match. Hyper intéressant. Hein. Il est chirurgical dans ses centres. Il défend comme il attaque. Alors après, on va pas le juger sur un match. Je l'ai pas suivi l'année dernière à l'AS Rome. Mais en tout cas, sur ce match-là, il a été très bon. Très bon. Et franchement... presque heureusement qu'il était là, et je suis pressé d'avoir Icardi qui va revenir en premier plan. J'aurais aimé même que ce soit Cavani, parce qu'en termes de déplacement, c'est autre chose. Voilà, aujourd'hui, pour moi, il y a 2 problèmes au Paris Saint-Germain, après avoir parlé de Florenzi, pour boucler la boucle sur le Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est que déjà le Paris Saint-Germain, il s'est présenté avec 3 joueurs qui étaient hors de forme, mais totalement hors de forme: Verratti, Di Maria, Neymar. Les deux, pour les amateurs de FIFA ou d'autres, c'est comme si tu lançais ton Ultimate Team avec des joueurs qui ont 34 de force. Quoi. Au bout de la 25e minute, tu ne peux plus les faire courir. Bah là, hier, non, mais c'était exactement ça. Le Paris Saint-Germain est rentré en mode Mike Tyson. Le Paris Saint-Germain voulait mettre KO l'Olympique de Marseille en 25 minutes parce qu'ils avaient conscience que derrière, ils ne pourraient plus rien faire. Et le problème, c'est que Marseille a résisté pendant ces 30 premières minutes. Et Marseille a même fait mieux, c'est qu'ils ont ouvert le score avant la mi-temps. Et à partir de ce moment-là, les Parisiens étant hors de forme, n'ayant pas de numéro 9 et de point d'appui, ils ont dû s'en remettre aux solistes. Et forcément, là, les mauvais orgueils sont ressortis. Verratti, il était HS. Verratti, il a fait une mi-temps derrière. C'était terminé, il a disparu. Neymar, c'était encore celui des 3 que j'ai cités qui s'en sortait le mieux. Et Di Maria, il a loupé tout ce qu'il a tenté parce qu'il était rincé. Il était totalement rincé. Et forcément, quand tu arrives avec 3 joueurs qui sont hors de forme, mais parce que Tuchel, il n'est pas fou, il prend 1-0, il propose rien contre Lens. Il a le dilemme de dire: est-ce que je fais jouer mes joueurs qui reviennent avec 2 entraînements dans les pattes ou pas ? Malheureusement, de toute façon, il ne voulait pas figurer, il voulait tenter quelque chose.
Pour moi, le PSG a été victime de ses propres décisions sur le début de saison. Parce qu'en refusant de jouer ce premier match contre Lens pour pouvoir permettre aux joueurs de partir à Ibiza avec toutes les conséquences sanitaires que ça a eu sur l'effectif et forcément sur la préparation de ce début de saison, je suis désolé, mais pour moi, le PSG s'est fourvoyé tout seul dans ce début de championnat. Alors quand j'entends en plus, tu vois, à chaque fois on n'arrête pas de dire que Leonardo met tout le monde au-dessus, tout le monde d'accord sur la communication. Moi je trouve que la communication qu'il fait après le match, elle est dégueulasse. Parce que comme d'habitude, quand le PSG perd, c'est jamais de sa faute, c'est de la faute des autres, parce que sinon ce serait trop simple. Parce que Leonardo déclare deux choses quand on lui demande son avis sur le championnat. Il pousse un coup de gueule contre le calendrier. Alors ça c'est quand même magnifique de pousser un coup de gueule contre le calendrier quand c'est toi qui reporte tes matchs. Ça c'est magnifique. Pour pouvoir permettre en plus à tes joueurs de partir en vacances, hein, alors qu'on vient de démarrer la saison. Bref, on va pas refaire le débat. Et le deuxième c'est pourquoi vous choisissez un arbitre inexpérimenté, etc. etc. Faut arrêter. Au bout d'un moment, ton équipe, si elle a pas gagné, c'est que elle a pas fait ce qu'il fallait. Et c'est que si elle est pas au point physiquement, c'est parce que vous avez fait n'importe quoi en les laissant partir à Ibiza ou même juste en vacances. Au bout d'un moment, il y a un championnat qui redémarre. Bah, si aujourd'hui t'es pas en forme, c'est pas de la faute de l'arbitre, c'est pas de la faute du calendrier, c'est ta faute à toi.
Je suis d'accord. Leonardo, là-dessus, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon dans sa communication. Et je pense que ça, c'est la communication officielle qu'il a eue. Officieusement, il n'a pas pu avoir la même avec Tourelle et dans le vestiaire.
Oui,
forcément,
peut-être.
Là, il a dû mettre en avant les vrais problèmes. Moi, j'ai deux inquiétudes en tant que passionné du football pour le Paris Saint-Germain. Des inquiétudes qui sont un petit peu techniques, mais qui se comprennent lorsqu'on les a assimilées avant de regarder le match. Le premier problème que va avoir le Paris Saint-Germain cette année, c'est le déplacement sans ballon. Pourquoi ? Parce qu'avant, il y avait un Cavani qui le faisait à merveille et qui avait cette lecture du jeu. Aujourd'hui, devant, on a des solistes. On a des solistes qui sont capables de faire tous les dribbles à n'importe quel moment et qui n'ont aucune régularité, ils n'ont aucune routine de déplacement. Ce qui fait que quand Neymar prend le ballon, même ses coéquipiers ne savent pas s'il va partir à gauche, s'il va partir à droite, s'il va faire une passe cachée. Et le problème là-dedans, c'est que tu as un Neymar qui récupère 50-55% des ballons qui passent le milieu de terrain et qui derrière fait ce qu'il veut avec le ballon. Donc moi j'ai vu hier soir des déplacements des Parisiens, j'ai vu des déplacements de Di Maria, j'ai vu des déplacements de Sarabia. 99% des déplacements sans ballon, ils partent, ils se retrouvent hors jeu, ils soufflent, ils se replacent. Parce que le problème aujourd'hui il est là, c'est que t'as pas de déplacement sans ballon et dans le jeu, en fait, tu t'en remets systématiquement à tes solistes. Donc ça, c'est un premier point, à mon avis, qui aujourd'hui va faire défaut. Le deuxième, ça va être la Neymar dépendance. Parce que Neymar, autant quand il est bon, autant quand il est en mode extraterrestre, ça fonctionne, ça marche. La réalité, elle est qu'à Lisbonne, Neymar, Mbappé, on en a parlé, c'est 46 tirs. Non, je crois que c'était un peu moins, c'était 27 tirs. C'était 27 tirs, zéro but. Et Mbappé en équipe de France, il marque un but, mais désolé, double contrôle, double contre-favorable, il se retrouve, la cage elle est ouverte, il la met devant lui, il n'y a rien d'exceptionnel. Neymar, hier, tous ses coups francs, ils sont contrés ou ils partent en l'air. Toutes les frappes qu'il fait...
Il n'a pas marqué depuis, je crois, 8 rencontres.
C'est énorme.
Il a battu un record de... Comment dire ? Son propre record d'inefficacité avec le PSG.
Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le milieu de terrain, il est tellement pauvre au Paris Saint-Germain, techniquement parlant. T'as des besogneux, t'as Gueye, t'as Paredes, qui sont capables d'aller gratter des ballons, Verratti aussi. Mais le problème aujourd'hui, il est que la plateforme de lancement, la plaque de lancement que doit être le milieu de terrain pour pouvoir donner des ballons à Neymar, Neymar à Barcelone... Tu regardes Neymar à Barcelone. Neymar à Barcelone, il est sur son aile gauche. Et il joue comme Hazard a pu jouer avec le Real Madrid ces derniers temps. Quand il jouait notamment aussi avec la Belgique, il serre son côté, il prend le latéral gauche en 1 contre 1, il le fixe, il fait des différences. Là, Neymar, sur chaque match, il fait le milieu de terrain, il fixe, et devant, il y a tellement personne qu'au bout du compte, il ne va pas non plus. Et hier, c'était que ça. Petit pont, il passait 4-5 joueurs. Il arrivait devant le but, il n'y avait personne. Donc, il était obligé de forcer, de perdre le ballon. Le problème aujourd'hui, il est là. C'est que Neymar, il quitte sa zone. Il quitte son côté gauche. Il quitte le front de l'attaque pour aller chercher le ballon et faire le boulot du milieu de terrain. Et quand il se retrouve de nouveau sur le front de l'attaque et qu'il doit donner un bon ballon, bah, il n'y a personne pour le récupérer. Il n'y a personne. Il est orphelin de l'attaquant. Il n'y a pas de Suarez. Il n'y a pas de Messi. Donc forcément, c'est la galère.
Allez, on va terminer avec ce classique. Il y a eu beaucoup de choses à dire, hein, bien évidemment, mais bon, on est un peu pressé par le temps, même si on ne fait pas le quiz.
Pep Gay, bon match. Hein.
Pep Gay, bon match. Voilà. Bah, on en notera quand même. Parce que c'est vrai qu'on
parlait du Havre tout à l'heure, 21 ans, athlétiquement monstrueux.
Ouais.
Il prend un jaune qui n'existe pas contre un retour sur un retour de Di Maria par derrière où il fait un tacle magistral. Mais bon, je pense que c'est de bonne augure, ça. Bon point pour Marseille.
Bon, écoute, on va suivre.
On va parler mercato dans pas longtemps.
Oui, bien sûr. Bah, on voulait quand même qu'on parle un peu de Première Ligue. Alors, on va juste donner les résultats. Arsenal qui a réussi quand même son entrée avec 3-0. À Fulham en plus, avec des buts de Gabriel, des buts de Lacazette, de Aubameyang. Bon, c'est un bon début pour Arsenal.
Il y a un match dont il faut qu'on parle.
Liverpool
contre Bielsa.
Match. Quel match. Mais Bielsa nous a fait du Bielsa parce que ils ont joué crânement leur chance. Ça c'est des matchs qui font de la bonne publicité pour le championnat d'Angleterre, même si c'est un championnat qui n'en a plus besoin. Je trouvais Liverpool quand même très faible derrière. Van Dijk qui fait quand même une erreur énorme. Je sais plus si c'est sur le premier ou le deuxième but. En tout cas, bien inhabituel. C'est un joueur qui a tellement été exceptionnel qu'on va pas lui jeter la pierre, mais bon, c'est quand même symptomatique. Quand même, parce que Liverpool qui prend 3 buts, c'est aussi que derrière, il faut que les automatismes se reprennent un petit peu. Voilà. Tu as autre chose à dire, toi, sur cette rencontre?
Non, juste que Salah qui s'était mis au service du collectif et qui parfois avait fait plus briller ses coéquipiers comme Mané, notamment. Bah là, sur ce premier match, il score au niveau comptable, en pensant un peu à lui, 3 buts. Même s'il y a du pénalty, hein,
Le but qu'il met là, la praline qu'il met dans la surface, magnifique.
Un Salah à ce niveau-là va faire du bien pour que Liverpool confirme cette année.
Oui.
Donc, très bien.
Bon. L'autre événement aussi de la Première Ligue, c'était cette victoire d'Everton contre Tottenham à Tottenham. Tottenham, moi qui m'inquiète depuis pas mal de temps maintenant, je trouve que Mourinho a perdu toute son aura.
Non, mais on en parle déjà, c'était déjà le cas dans son dernier club.
Pour moi, Mourinho, ça ne va plus du tout. Et je pense qu'il faut. Alors, je pense que c'est un entraîneur qui est incapable maintenant de se remettre en question parce qu'il a trop gagné. Et peut-être que quand tu gagnes trop et que tu as un ego surdimensionné, tu n'arrives plus à te remettre en question. Mais c'est Mourinho, ça ne va plus être possible de continuer de jouer comme ça, de proposer ça. C'est plus possible. Everton qui fait pas une super saison l'année dernière avec Carlo Ancelotti. Là, Carlo, il a fait son petit effectif. Il y a quand même des bons joueurs chez cette équipe. Je trouve
il a récupéré Alan, notamment au milieu.
James. Donc en plus apparemment les recrues ont été bonnes. Donc Everton.
Elle a de la gueule cette équipe.
Non, mais elle a de la gueule. Mais attends,
autant Everton, ça fait 4-5 ans qu'ils claquent des dizaines de millions sur le marché des transferts pour les revendre moitié prix en Ligue 1 l'année d'après. Mais là, cette année, franchement, déjà que le coup Alan, c'était un gros coup. Reims Rodiger, c'est quand même costaud aussi. Non, franchement, il y a...
Mais devant, moi je trouve que devant Richarlison, super. Un ailier qui n'est pas très connu chez nous, mais s'il y en a qui regardent la Première Ligue, ils connaissent forcément ce joueur parce que c'est un très très bon, très, très bon attaquant. Calvert-Lewin, c'est un petit jeune aussi qui est vraiment pas mal. Aussi, moi je trouve qu'il y a un profil très intéressant.
Doucouré aussi, qui est très bien, qui vient
Doucouré,
de Watford.
Très bien. Alan, on le connaît. André Gomes aussi, qui a redonné un peu de ses cendres. Digne aussi, qui sort d'une super saison. Coleman, je crois que c'est le capitaine de cette équipe, il est vraiment pas mal. Je connais moins la défense, mais franchement, c'est intéressant. Et en tout cas, moi, je tire vraiment la grosse sonnette d'alarme pour cette équipe de Tottenham, qui en plus, moi, je regarde l'effectif de Tottenham. Où sont les recrues? Est-ce qu'il y en a eu? Parce que j'ai pas bien suivi le truc, mais quand je vois que
si on prend les mêmes et on recommence.
Prend les mêmes et on recommence depuis quand même pas mal d'années.
Tottenham, c'est quand même costaud. Moi, ce que j'essaie de comprendre.
Ils sont privés de Lo Celso encore, mais bon.
Ouais, mais bon, c'est pas ça qui va faire la différence quand tu regardes les 4 galactiques qu'ils ont devant. Excuse-moi, Kane, c'est Kane, il peut jouer dans n'importe quel club en Europe. C'est certainement un des meilleurs, si ce n'est le meilleur numéro 9. Alors il y aura débat avec Benzema ou d'autres, mais ce joueur-là, il peut être exceptionnel. Depuis que Mourinho est arrivé, il est éteint. Et en plus, ce qui est terrible, c'est de dire que Everton, c'est victoire logique. C'est ça qui est terrible. C'est même pas Manchester City qui perd 2-1, mais qui a frappé 7 fois plus que l'adversaire. Là, tu te dis merde quoi, tu te dis merde, il y a Kane, il y a Ali, il y a Lucas, il y a Son, ça va vite. Oh, mm. t'as des latéraux qui sont exceptionnels et t'as un point d'appui devant qui est magistral.
Oui.
Comment avec ça, tu peux arriver sur 90 minutes à faire 9 tirs?
Ouais, c'est vrai. C'est
mais
vrai.
Faut m'expliquer.
Faut m'expliquer. Ça va pas du tout. Pour moi, Mourinho, ça va pas du tout. Et il faut qu'il arrête ou qu'il prenne un club dont tout le monde s'en fout là, qu'il aille en Chine. Parce que moi, je supporte plus le jeu. Je supporte plus l'homme. Pourtant, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup défendu, mais je peux plus. Je peux plus. On va fermer cette page Première Ligue. On va parler justement mercato. Alors pour faire vite, mon petit Pierrot, je vais te donner les principales infos qui sont sorties ce week-end. J'aimerais juste que tu me dises grosso modo un petit peu ton avis. Alors on parlait notamment d'un intérêt du PSG pour Lucas Hernandez qui vient de démentir sur Téléfoot hier. Est-ce que toi tu y crois à cette piste ou pas?
Lucas Hernandez, ça fait maintenant plus de 2 ans que le Paris Saint-Germain tourne autour. Officieusement, il est hyper intéressé et emballé à l'idée de partir. Il y a même eu certains médias qui l'ont annoncé en semi-bras de fer avec le Bayern de Munich. Après, le Bayern de Munich sort d'une saison exceptionnelle. Le Bayern de Munich vient de gagner la Ligue des Champions aux dépens du Paris Saint-Germain. Donc forcément, sorti de tout ça, Lucas Hernandez, il dit qu'il veut partir au Paris Saint-Germain, ça va choquer un petit peu tout le monde parce que partir dans le club qui a été battu en Ligue des Champions en finale, je veux dire, aujourd'hui il est sur le toit du monde avec le Bayern Munich qui l'année dernière a été le meilleur club du monde. Hein.
Oui.
Quel intérêt aujourd'hui Lucas Hernandez à partir au Paris Saint-Germain? Ce qui est sûr, c'est que les deux se tournent autour depuis un petit moment, c'est comme Bernat avec le Barça.
J'ai l'impression que c'est quand même pas mal bouché pour Lucas Hernandez, moi j'ai l'impression, parce que le petit jeune là, Davis. C'est comme ça qu'il s'appelle.
Ouais. Hein,
le petit jeune Davis là, s'est bien installé sur le côté gauche. La charnière, compliqué quand même de la bouger. Au final, il a été quand même pas mal blessé. Lucas, je sais pas si du coup il ferait pas mieux de partir.
Pour moi, Lucas Hernandez, ça pourrait être une super pioche pour le Paris Saint-Germain.
Il a quand même dit, il me reste encore 4 ans de contrat au Bayern, mais si ça continue à être aussi compliqué, je vais voir. Donc il se pose aussi la question.
Officieusement, hein. Même après la victoire de la France en finale de la Coupe du Monde, il avait laissé entendre, et en tout cas il avait même dit auprès de ses proches l'avaient annoncé, comme quoi il était très intéressé par le projet parisien. Donc du moment où tu as laissé fuiter ces choses-là, c'est comme, il n'y a jamais de fumée sans feu, c'est comme Mbappé au Real, c'est comme Bernat à Barcelone. Ils ont verbalisé à un moment que c'était un rêve ou une envie marquée de vouloir aller dans ces clubs-là. Donc il manque le contexte, mais le jour où le contexte se présente, ils prendront. Et là, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. S'il continue à peu jouer, parce que Hernandez, c'est un joueur de premier plan, il faut qu'il joue tous les matchs, il pourra être amené, surtout avec le déclin de Bernat qui va arriver dans les années qui viennent. Hein. Bernat, il ne pourra pas être partout, même s'il fait encore des matchs solides. Ce serait bien pour tout le monde. Je pense que ce serait un deal gagnant-gagnant pour le Paris Saint-Germain et Hernandez de travailler ensemble.
Bon, on va essayer de passer vite sur les autres. Aurier qui se rapproche quand même de Milan. Il y a déjà un accord qui avait été annoncé depuis pas mal de temps. Il n'a pas joué Aurier en plus contre Everton. Donc peut-être que c'est signe que les choses avancent bien. Moi, j'ai pas vraiment d'avis. Pour moi, Serge Aurier, c'est jamais un joueur qui m'a fait rêver. Milan semble se construire quand même une équipe qui est sympa. Il sort d'une saison plutôt pleine. Pourquoi pas?
Je pars du principe que c'est moins risqué aujourd'hui d'acheter Aurier qui sort de Tottenham que d'acheter Aurier qui sort du Paris Saint-Germain. Il a mûri, vraiment. Tottenham, il a mûri, il a eu du temps de jeu, il a quasiment joué tous les matchs. Stabilité, il a rendu de bons services, que ça soit défensivement, offensivement. Moi, je pense que ça peut être une bonne recrue.
À suivre. Le Real, qui compte encore sur Manchester United pour recruter Bale, parce qu'aucune offre pour Bale jusqu'à maintenant, c'est quand même...
c'est une tristesse. C'est un crève-cœur pour un joueur qui a porté le Pays de Galles, qui peut être exceptionnel. Pour moi, Bale, je l'ai vu par action sur certains matchs, il a un potentiel, ce mec-là, stratosphérique. Et quand je vais sur Wikipédia et que je tape Bale et que je vois l'âge qu'il a, je me dis, mais ce mec-là, c'est un gâchis.
Oui.
Même s'il a des titres, hein, parce que quand tu y es passé toutes ces années, mais quel a été son apport personnel dans ces titres? C'est ça aussi qu'on retiendra.
Aujourd'hui, il n'y a personne qui est prêt à mettre 20 millions d'euros sur ce joueur-là. Bon, il y a un gros obstacle sur le salaire. Mais enfin, en théorie, Bale, Allez, le joueur, il va te coûter 35 millions d'euros sur l'année avec son salaire. Est-ce qu'un club comme Manchester United te rend compte pour qu'il se pose la question de savoir s'ils prennent le risque de prendre Bale? C'est quand même criant.
Oui,
comme,
parce que physiquement, en plus, il est pas oui, au top aussi. Donc, il y a ce facteur-là. Parce que tu peux acheter aussi... tu sais pas ce que tu achètes. Bale au meilleur niveau, forcément, 35 millions, tu le dis comme ça, c'est top.
On va passer, Pierre. Je suis désolé, mais il faut qu'on finisse. Vidal à l'Inter, c'est imminent. Il va sans doute signer aujourd'hui voilà, un contrat où il touchera environ 6 millions d'euros par an. Bon, Vidal qui retrouve Conte, pour moi, c'est pas. Alors qu'il est plus justement désiré à Barcelone, pour moi, c'est pas incohérent. Donc, ouais. À voir. Khedira, qui pour l'instant reste à la Juve. Alors, la Juve cherche à s'en séparer, comme ils l'ont fait avec Higuain, qui vient de signer d'ailleurs à l'Inter Miami. Mais bon, apparemment, c'est pas. Il n'a pas envie de casser son contrat comme Higuain l'a fait.
Khedira, ça fait 3 ans qu'il est sur la sellette, qu'il doit partir. Ouais. Même au moment où Matuidi devait arriver, il devait partir. Bon, je comprends pas la gestion de la Juve dans le dossier Khedira. Tu vois, on arrive sur la fin, mais il faudrait que tu me l'expliques.
Bah, je te l'expliquerai en off parce que là on n'a pas le temps. Voilà. Otamendi qui est en train justement aussi un peu comme Khedira de négocier son départ. Hein. Le joueur aimerait retourner au FC Porto, pourquoi pas. Marcos Alonso qui serait proche aussi de l'Inter. Bon, c'est pareil. Marcos Alonso, c'est un joueur que Conte.
Mais ça bouge en Italie. Tu fais le mercato italien ou t'as
non,
le mercato tout court.
Je suis sur Eurosport. Hein.
Oh my God.
Marcos Alonso qui va vers l'Inter. Alors Conte qui aime bien recruter ses anciens joueurs. L'entraîneur Nuno Espirito Santo qui prolonge à Wolverhampton, voilà. Et bon, j'aurais bien aimé en parler plus longtemps, mais Lucas Vázquez qui serait en partance pour le Qatar, ça c'est quand même
incroyable.
Ouais, c'est Marca qui sort ça, c'est une petite bombe qu'ils ont lâchée dimanche. Le RKS Full Time Show, c'est fini pour aujourd'hui. Désolé, c'est toujours très compliqué de parler.
Et
un
on était
peu
que
de
deux,
tout.
En
et
plus,
on était que deux en plus, et ça va pas du tout.
Si Melvin a été là, c'était 1h30 aujourd'hui.
Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, on vous retrouve la semaine prochaine. J'espère qu'on sera avec Melvin. En attendant, on vous souhaite une très bonne soirée sur RKS. À plus.
Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS.